revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Et me retrouver chez moi.
Tout est dit ce soir dans le rendez-vous Revoir Paris et sa maison de la radio. En direct sur France Culture, il sera question d'architecture, de Grand Paris, d'aérocab, des arts et métiers et même d'espaces baisables. Avec Françoise Cuiten qui signe Revoir Paris, une bande dessinée et une exposition ou comment redessiner Paris dans un rétro-futur, le projet ambitieux d'un dessinateur utopiomane. Le mot est de lui, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un fils d'architecte qui dessine la ville pour mieux la comprendre et en critiquer les excès.
19h30, le plateau sera urbain et lacanien avec Roland Castro, architecte urbaniste qui revient à la Courneuve après sa visite avec François Mitterrand en 1983. Il imagine aujourd'hui Central Park, Manu Farine.
Retour sur le parcours d'un architecte qui défend le rapport entre la mise en espace et le sentiment qu'on en a, de préférence des espaces où circule le désir, et c'est un lacanien qui le dit.
Mais tout de suite, c'est le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre avec l'actualité du jour de Zoé Sfez. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Vous ouvrez cette émission spéciale en direct et en public de la Maison de la Radio par un entretien avec Jean-François Bonne. C'est l'un des architectes de l'agence Architecture Studio. Il fait partie de ceux qui ont pensé dessiner cette nouvelle Maison de la Radio.
Et oui, car les travaux qui ont commencé en 2005 ne sont évidemment pas uniquement des travaux de désamiantage ou de rénovation, comme on a pu l'entendre. Il a fallu repenser toute l'architecture de ce bâtiment conçu par Henri Bernard en 63, bâtiment qui était une véritable prouesse technique et qui était considéré comme d'une modernité époustouflante à l'époque. Repenser ce bâtiment, donc avec une marge de manœuvre existante, mais tout de même réduite, même si, contrairement à ce qu'on a entendu beaucoup, le bâtiment n'est pas classé.
Il n'est pas classé du tout, car s'il avait été classé, on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Ce bâtiment est un bâtiment emblématique de l'architecture des années 60. Et dans le concours, c'était un des éléments importants de préserver l'architecture d'origine du bâtiment. Ce que nous avons fait, nous avons essayé, partout où c'était possible, de remettre en état les grands halls majeurs du bâtiment dans leur écriture architecturale d'origine. Mais par contre, dans les nouveaux espaces que nous avons conçus, notamment ce grand auditorium, là, nous nous sommes affranchis de l'architecture d'origine pour, au contraire, créer des espaces en rupture, on pourrait dire, et qui marquent l'intervention contemporaine d'aujourd'hui.
Le bâtiment a donc été totalement repensé avec un objectif, comme on peut le voir ce soir, l'accueil du public.
Et oui, parce que c'est toute la spécificité de cette nouvelle maison de la radio. C'est un lieu de travail, notre lieu de travail. On est nombreux à donc y travailler, mais il a aussi vocation à devenir l'un des lieux culturels les plus importants de France. Et cette double nature du bâtiment représentait un vrai défi en matière d'architecture.
La principale contrainte qu'il y avait dans cette maison ronde, c'était cette grande circulation périphérique dans lequel le public a une tendance à se perdre, car il est désorienté par le côté circulaire et par le fait qu'on est rejeté en permanence sur la périphérie du bâtiment. Et nous avons proposé de créer un grand axe qui coupe la maison de la radio de part en part et qui permet d'accéder au centre du bâtiment dans un point focal qu'on a appelé l'Agora, à l'emplacement d'une ancienne cour technique qui était complètement délaissée. Ça sera demain le hall principal de la maison de la radio qui permettra de rejoindre le centre à la périphérie et vice-versa.
Et dans cette maison déjà extrêmement dense, il a fallu inventer un lieu, une forme, pour créer une salle symphonique.
Et oui, c'était le cahier des charges, avoir cette nouvelle salle symphonique, la première depuis 100 ans à Paris. Et ce n'était pas évident. Le projet initial proposé aux architectes était une boîte à chaussures, le modèle classique. Mais les architectes n'en voulaient pas, puisqu'ils cassaient totalement le système de rayons que vient d'évoquer Jean-François Bonne. Il a donc fallu construire une salle avec une grande scène, digne des plus grandes formations, avec au moins 1500 spectateurs, mais le tout dans un espace très réduit, ce qui a poussé les architectes à imaginer une structure de salle très innovante.
Dans le programme qui nous était donné, on nous incitait à faire une shoebox. La shoebox, dans le langage des salles de concert, c'est la boîte à chaussures, c'est-à-dire c'est une salle rectangulaire qui met frontalement le public avec l'orchestre. Et nous, on a voulu faire autre chose, on a voulu faire ce qui s'appelle la musique au centre, où l'orchestre est disposé au centre de la salle, c'est-à-dire qu'on a disposé pour renforcer cette volonté qu'on avait de faire une salle très intime. On a décomposé l'ensemble du public en différentes corbeilles qui sont disposées dans l'espace dans des ensembles de balcons superposés, mais aussi décomposés, de manière à ce que chaque élément de public soit regroupé dans des petits ensembles, et non pas dans une grande assemblée comme dans un palais des congrès.
Voilà, alors ce nouvel auditorium, évidemment, le public pourra le découvrir, puisque dès ce soir, toute la suite de la saison, eh bien, les quatre formations de la maison s'y produiront pendant une fois par semaine chacun. Et ce n'est pas terminé pour le reste de la maison de la radio, puisque les travaux vont encore durer jusqu'en 2016.
Ce soir, le concert est à 20h, donc pour le public. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos deux invités? Françoise Cuitaine, qu'est-ce que ça vous inspire, la maison de la radio, cette forme ronde, vous qui êtes dessinateur avec une mentalité d'architecte?
C'est un bâtiment emblématique. Je suis content, c'est qu'on réenvisage d'une façon positive le patrimoine des années 60. Il a été tellement décrié et en fait, il y a aussi des choses absolument admirables. Et la maison de la radio était évidemment un bâtiment unique qui a rayonné, qui était vraiment dans son genre, une prouesse, vous l'avez dit. Mais ce qui était très bizarre, c'est qu'on est capable de faire les mêmes erreurs qu'on a faites sur l'art nouveau ou sur bien d'autres formes d'expression.
C'est-à-dire
ne pas être capable de les décrypter, ne pas être capable de les regarder dans ce qu'elles ont apporté dans l'histoire.
Roland Castro, architecte urbaniste. Ah, je vous sens un peu plus dubitatif.
Moi, je ne suis pas...
un fou de la maison de la radio.
Je trouve que la manière d'avoir... casser le système, si j'ai bien compris, parce que j'ai eu quand même le waouh de l'entrée, c'est le bon truc. Parce que malgré tout, cette forme radiale, complète, c'est inhospitalier. C'était de base inhospitalier. Or, je veux bien qu'on fasse le numéro sur les années 60, qui sont des années horribles.
Oui, pas tout,
juste horribles. Mais juste non. Des années
pas
horribles.
Tout, pas tout.
Pas tout.
Pas tout. Pas Pouillon. Pas Pouillon. Point.
C'est
pas
qui Pouillon,
Pouillon.
C'est qui
Henri
Pouillon.
Bernard, mais enfin, mais faut voir d'autres trucs. Non, attendez. C'était un bâtiment hyper fonctionnel, naïf, d'une naïveté folle. Et ils ont trouvé un truc pour casser le système radioconcentrique. Ça, c'est bien. Je sais pas ce que j'ai ressenti. Mais sinon.
Pour cette réouverture, donc.
Sinon, là, c'était encore un machin qui racontait la puissance avec la naïveté de faire des ondes avec un rond qui fait des ondes. C'est ça. C'était de l'architecte dans toute sa connerie.
Et c'est un architecte urbaniste qui en parle. Dans la bande dessinée dont on va parler tout à l'heure, Revoir Paris, Françoise Cuitaine, vous dessinez une vignette qui montre exactement l'emplacement de la maison de la radio avec l'île Ossigny qui est en face et ce qui correspond aujourd'hui au quartier de Beaugrenelle. C'est une vignette qui a été inspirée d'une photographie aérienne de 1932, un projet d'aérodrome. Est-ce que vous pouvez nous décrire le lieu à l'époque et comment vous avez vu évoluer ces transformations?
Donc en fait, on s'est inspiré de tous les rêves, de toutes les utopies, les projections qu'il y a eu sur Paris. Et c'était assez réjouissant de voir que cette ville a donné lieu à tellement d'idées novatrices. Heureusement, toutes n'ont pas été conservées parce qu'il y avait des choses assez radicales. Hein, le plan voisin du Corbusier. Mais le plan Perret, le projet des tours Perret était magnifique. Il y avait cet aéroport sur la Seine.
Sublime.
Sublime, oui. Roland Castro.
Ah, le coup de l'aéroport, à la place de l'île Ossigny, de l'URSA, mais magnifique.
Magnifique, très bien dessiné.
Magnifique.
Bon, c'est peut-être pas indispensable, on est content quand même qu'on y ait échappé, mais ça a constitué...
Ça dépend.
Avec le développement des avions, ça aurait quand même posé un problème aujourd'hui.
Ah, moi, je travaille sur un avion à atterrissage vertical, mon verre.
D'accord. Non, atterrissage vertical, Roland Castro.
Oui, mais ça ne marchera jamais.
Ah, bah ça.
J'essaie de voir des ingénieurs, ils rigolent.
Un hélicoptère?
Bon, c'est pas. Le mec qui invente un avion à atterrissage et décollage vertical est un grand urbaniste.
Donc on a échappé à des choses
c'est un pari sur l'avenir, oui,
un petit peu dangereuses, mais il y a des choses magnifiques. Il y avait par exemple des projets de sculptures d'éléphants, il y avait des projets aussi de passerelles croisées entre les rues qui étaient très belles et qui auraient sans doute été des éléments très attractifs pour Paris. Les trottoirs roulants, évidemment, des expos universels et tout ça. C'est amusant de voir à quel point on a vraiment rêvé cette ville.
Et l'on poursuit avec le supplément Week-end. Bonsoir Benoît Lagane et au revoir. Zoé Sez, elle est déjà partie, elle est là-bas, je la vois.
Bonsoir
Rob Noir, très à l'aïa.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Bonsoir. Et pour rouvrir en public ce supplément, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Oui, et puisque la radio est à la fête ce soir, j'ai décidé de mettre à contribution quelques camarades de France Culture afin de décrypter l'actualité série télé de la semaine à venir. Et je me suis donc tourné vers nos spécialistes de l'histoire, car l'actualité sérielle de la semaine prochaine, c'est le retour sur France 3 d'Un village français.
Sixième saison.
Voilà, série qui suit année après année le quotidien d'un village sous l'occupation. Alors si vous avez manqué le début, je vous raconte.
Allez, c'est parti pour Alain Decaux raconte.
Tout commence le 4 juin 2009.
Non, c'est pas possible.
Les téléspectateurs découvrent pour la première fois Villeneuve, bourgade du Jura, l'été 1940. Après 48 épisodes, mardi prochain, les collaborateurs aux résistants de Villeneuve reviennent 4 ans après l'arrivée de l'armée allemande. En août 44, dans une France à peine libérée, Villeneuve est toujours entre les mains des Allemands et la milice poursuit jusqu'au bout ses exactions. Les rangs des résistants grossissent et le combat continue.
Alors, qui est-ce que vous avez rencontré ici à France Culture pour vous en parler ?
Eh bien, ce matin, j'ai toqué à la porte d'à côté, au bureau de la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, où j'ai rencontré...
Huitième étage
de la maison. Deux fans de la série, la productrice adjointe Anaïs Quin et l'attachée de production de l'émission Marie-Vonne Abolivier. Alors, pour mieux comprendre l'ambition de la série, je leur ai donc demandé s'il y avait un événement historique précis dans la série qui avait pu être traité avec justesse.
Moi, c'est la reconstitution. Ils ont fait une très belle reconstitution dans la dernière saison, d'ailleurs, je crois. C'est une fête du 11 novembre, qui est quand même plus ou moins interdite sous l'occupation, que les résistants décident de fêter. Donc, ils organisent tout un cortège. Un bal s'organise aussi de manière totalement clandestine.
Ils font une procession dans le village. Ils sont masqués, ils font de la musique et ils déposent une gerbe au monument aux morts.
Donc ils rendent hommage aux anciens combattants de la guerre de 14-18 en tant que combattants, même si eux sont encore clandestins au sein de la résistance, pour montrer que voilà, ce front existe, ce front clandestin existe. Et c'était très fort. Alors on sentait la reconstitution et en même temps avec tout ce passif qu'on a avec ces personnages, toutes les 3-4 saisons qu'on a vues auparavant, et du coup ça prenait une ampleur émotionnelle très très forte.
Cet événement qui devait pas du tout s'être passé de manière aussi lyrique et voilà, là j'ai trouvé que c'était un plus beau moment de la série d'un point de vue historique.
Donc Marie-Vonne et Anaïs de la Fabrique de l'Histoire sur France Culture aiment autant l'histoire que les fictions télé. J'ai donc essayé de savoir quelle téléspectatrice se cachait en elle. Témoignage.
Moi, quand je le regarde, c'est une histoire que je maîtrise tellement bien. En plus, ils ont un conseiller scientifique qui est très, très présent. Hein. Jean-Pierre Azéma, il y est depuis longtemps. Et on a l'impression qu'il est de plus en plus investi, je crois, même dans l'histoire du geste. Comme c'est un fond historique que je connais assez bien, du coup, j'ai plein d'attentes. Lucienne, par exemple, qui, dans la première saison, couche avec un soldat allemand, aura un enfant, d'ailleurs, avec lui. Immédiatement, je me suis dit, elle va perdre ses cheveux très vite. Elle va être tondue, c'est sûr. Et finalement, elle se transforme. Un peu par un jeu de hasard, elle se remarie avec quelqu'un d'autre, etc. Mais elle tombe dans la résistance, un peu par hasard, pour une autre histoire d'amour d'ailleurs, avec une femme. Et du coup, ça crée une attente et une frustration très forte de ne pas avoir la fin de l'histoire, alors que cette fin de l'histoire, théoriquement, je la connais. Donc ça joue beaucoup là-dessus.
Je me suis dit, une série française d'histoire, j'en ai rien à foutre, je la regarde pas, par snobisme. Et puis en fait, après, je me suis dit que ça allait peut-être avoir des vertus pédagogiques sur un adolescent amorphe, que j'ai obligé à regarder ce que c'était à son programme.
Et puis on est assez curieuse de voir comment Janine va réussir à s'inscrire en tant que résistante de la dernière heure.
Ouais, mais moi je lui fais confiance à Janine, elle est super.
Donc pour vous faire une idée, Un village français, ce sera dès mardi sur France 3.
Et on poursuit avec votre petite revue de presse culture média de la semaine et on commence par mercredi. Mercredi, c'était inédit.
Oui, dans la colonne essentielle de ses pages culturelles, le quotidien La Croix annonce la publication d'un inédit de John Steinbeck dans une revue américaine, The Strand Magazine, un trimestriel littéraire. With Your Wings, c'est le titre de cette nouvelle, centrée sur l'histoire d'un pilote afro-américain. Et bien, cette nouvelle a été retrouvée dans les archives du Texas, elle n'avait jamais été éditée, sauf qu'elle avait été lue par Orson Welles en juillet 44 à la radio.
Quel merveilleux média. Jeudi, c'était ici.
Oui, la ministre de la Culture et de la Communication était l'invitée de la matinale culturelle de Vincent Josse sur France Musique entre 8h et 10h hier matin. L'occasion pour la ministre de parler notamment de son goût pour la musique classique. Alors après sa communication, dirons-nous, mal maîtrisée autour de la littérature et du prix Nobel, Fleur Pellerin sur France Musique a tenu à montrer jeudi qu'elle connaissait bien son dossier. Extrait.
En fait, j'ai lu une étude très récemment qui disait que la musique en mineur, la musique plutôt triste, faisait du bien, reposait, apaisait, rendait les gens contents, même les gens qui étaient un peu tristes ou déprimés. Je crois que c'est une étude qui a été faite par l'université de Berlin, des chercheurs de l'université de Berlin. Et donc, c'est vrai que j'ai un petit penchant, je dois vous l'avouer, pour la musique en mineur et pour la musique romantique, notamment.
Pourtant, vous n'êtes pas déprimé.
Pourtant, je ne suis pas déprimé, mais c'est vraiment une musique qui me touche, qui pourrait me faire pleurer.
Et aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, pour terminer, une info culture et numérique pour aller au-delà de Paris. Sur le fil d'une dépêche AFP, on peut lire cet après-midi que le Loiret crée une médiathèque sur le net. En fait, depuis début novembre, un site de streaming permet à tout abonné d'accéder en ligne à des milliers de documents, des livres numériques, des magazines, des disques et des films. Et pour être abonné à Loiretech, c'est le nom de ce site, il faut juste être inscrit dans une des bibliothèques du département. Bref, après le département des Landes, le Loiret se dote de cette sorte de Netflix multimédiatique local, comme quoi il n'y a pas que les Américains qui ont des idées.
En quelques minutes, c'est sûr, mon choix est fait. On prend la route, tous ensemble, direction le Loiret.
Direction tout de suite la maison de la radio, studio Agora, en public et en direct dans le forum. On commence tout de suite.
19h20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Futur du passé avec vous, François Skeuten, dessinateur, scénographe. Vous êtes l'auteur avec Benoît Peters de la série culte de bande dessinée Les Cités Obscures, dans lesquelles vous inventez des villes aux architectures fantastiques. Et aujourd'hui, votre sujet, c'est Paris, à la fois à travers une bande dessinée chez Casterman et une exposition à la Cité de l'Architecture à Paris qui va débuter le 20 novembre. Les deux, l'exposition comme la bande dessinée, sont intitulées Revoir Paris. La bande dessinée se passe en 21055. Comme ça qu'on dit. Une partie de l'humanité a quitté la Terre, devenue trop hostile, et une jeune femme, Karine, a été sélectionnée pour mener une mission de retour sur la Terre. Elle s'embarque alors du tube, un vaisseau avec une théorie de vieillard, et on comprend très vite que la jeune fille est passionnée par Paris, notamment pour des raisons familiales. Elle va alors prendre une drogue qui la fait basculer dans une sorte de transe ou de fantasme qui lui permet de visiter Paris. Un Paris encore haussmannien, traversée par des engins volants, puisqu'on est bien en 21055. La première fois qu'elle a des contacts avec les Parisiens, et c'est ça qui est intéressant, elle débarque dans les galeries, dans les passages couverts qui datent à Paris de la deuxième moitié du 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous pour que ce soit la première architecture que vous dessiniez véritablement de Paris dans cet album, avec cette architecture-là?
Oui, évidemment, les passages appartiennent pour moi à quelque chose de tellement intime à Paris, de si particulier, c'est tellement beau ces passages. Et puis c'est vrai que j'ai été enchanté, ébloui par les textes de Walter Benjamin sur ces lieux aussi extraordinaires, et sur, d'ailleurs, tous les textes qu'il a écrits sur Paris ont beaucoup intéressé Benoît et moi. Et donc c'était une façon de rendre hommage à ces lieux et aussi à Walter Benjamin. Mais c'est vrai qu'en plus, graphiquement, c'est très excitant à dessiner.
Pourquoi ? Pourquoi les passages seraient-ils plus excitants que le reste ?
Parce que c'est extérieur-intérieur. Et c'est ces lieux qui traversent, ces lieux qui ouvrent et qui en même temps conduisent, ces lieux qui sont... Enfin, il y en a quelques-uns à Bruxelles, mais ceux de Paris sont assez remarquables.
Vous partagez le même enthousiasme pour ces lieux parisiens, Roland Castro ?
Absolument. Il y a même une manière de se balader dans Paris à travers les passages qui peut être absolument incroyable. Il y a des passages d'une poésie absolument folle. Il y en a des super propres, mais... Passage du Caire qui est incroyablement kérote. C'est ce que vous disiez, c'est des coupures magnifiques dans la ville, c'est une manière de la fréquenter.
Intimement.
C'est un peu comme là, vous savez, quand il y avait les bus avec les bus qui y avait, on était dehors et dedans. C'est un dehors-dedans.
Les bus impériales.
Ouais, les bus impériales, c'était formidable. Il y avait ce dehors-dedans dans la ville, et il y a ça dans les passages qui est absolument magnifique, qui est reproduit parfois dans des galeries commerciales merdiques, mais qui a pas du tout la poésie de cette histoire.
Ils sont intacts. Ils n'ont pas été perturbés. On a l'impression que le temps les a complètement comme ça protégés.
Lucille Comeau.
Alors, parallèlement à cette bande dessinée...
On a le droit
de fumer, en plus. Pas ici.
Dans les passages.
C'est encore à l'extérieur. Il y a une exposition donc, qui s'appelle aussi Revoir Paris, qui ouvrira, Laurent le disait, le 20 novembre à la Cité de l'Architecture. On y verra des dessins et des photographies qui ont inspiré d'ailleurs la bande dessinée. Une sorte de panorama chronologique des grandes visions qui ont fait Paris, en gros, de Haussmann au projet aujourd'hui du Grand Paris. Revoir Paris, le titre est à double sens. On peut l'entendre comme voir à nouveau Paris. Et puis corriger Paris, comme on dirait revoir sa copie. Comment est-ce que le dessin prend ces deux sens en charge ?
Oui, c'est vrai que ce titre de Charles Trenet est si beau parce qu'il peut donner lieu à deux visions, à deux façons de penser Paris. Alors comment le dessin, vous savez, moi j'aime les architectes qui dessinent, ça me faisait plaisir de voir Roland Castro.
Roland Castro n'arrête pas de dessiner, j'allais dire gribouiller, mais non, de dessiner depuis le début de l'émission en effet.
Normalement c'est moi qui fais ça et je trouvais ça incroyable, il est en train de...
D'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette petite chose que vous êtes en train de faire ?
Non, c'est de l'automatisme.
C'est de l'automatisme, d'accord, comme quand on est au téléphone.
Et donc le dessin il y a les architectes dessinateurs. Ce qui est magnifique, c'est de sentir... J'adore leur vision de dessinateur et d'architecte. Parce que là, on a leur souci, leur pensée d'architecte, leur rigueur. Et en même temps, on a tout leur talent. Et quand ils se mettent à faire des visions, ils ont en même temps la crédibilité de l'architecte. Et en même temps, ils ont le talent du dessinateur. Et ce moment de grâce, il y a là quelques-uns comme ça qui sont magnifiques, dont Perret, qui est un très grand dessinateur. Et on est très heureux. J'ai beaucoup rendu hommage à Perret parce que j'adorais de voir comment il construisait ces immeubles, comment il les mettait dans la lumière, comment il les soignait et comment surtout il travaillait l'environnement. Comment il mettait les personnages en scène, les voitures, comment il imaginait la circulation. Donc c'est plus qu'un architecte pour moi, c'est un raconteur d'histoire d'architecture.
Alors à la fin de l'album, qui est aussi le catalogue de l'exposition, vous mentionnez les projets du Grand Paris. Et là, vous rappelez un épisode historique de 1983 lorsque vous, Roland Castro, vous aviez amené François Mitterrand à la cité des 4000 à la Courneuve pour lui faire constater la dégradation de la banlieue parisienne. Vous vous souvenez de cette visite, Roland Castro?
Oui, je m'en souviens, oui. Fortement d'abord. C'est le 26 juillet 83, donc je me rappelle parce que c'est la date exacte, parce que c'est la date anniversaire de la Révolution cubaine. Bon, je trouve ça un peu de sens.
Un peu de sens, c'est comment ça m'a aussi.
26 juillet. Et ce jour-là, en plus, après cette visite à la Courneuve, on avait commencé par de la pédagogie. On avait été à la cité jardin de Châtenay-Malabry, avec Cantal Dupart, lui montrer une cité jardin hyper dense, enfin, remplie de gens, mais absolument pas dense du point de vue du ressenti. Une cité. Et alors, je me balade avec lui dans la cité jardin et je lui dis, il y a autant d'habitants au mètre carré que dans les 4000. Dans les 4000, c'était tellement mal fait que toutes les grandes barres mettent le ciel en impasse et vous mettent dans une nasse. Vous n'avez plus de ciel. À la cité jardin de Châtenay, il y a une immense barre incurvée en haut d'un très très beau jardin. Mm-hmm. Elle est très haute, très grande. Mais elle termine une composition d'une façon admirable. Donc, au début, c'est amusant parce qu'il me prend presque pour un escroc quand je lui dis ça. Heureusement, on a un moyen moderne pour qu'il se rende compte qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux de sucre à la cité jardin de Châtenay, c'est qu'on prend un hélicoptère. Et que du coup, il s'aperçoit qu'il m'a fait confiance pour cette balade, mais pas un escroc. Et là-dessus, on fait tout le tour des forts qui font tout le tour de la région parisienne en lui racontant que avec tous ces points hauts, ces Montmartre potentiels, il y a un avenir de Paris qui s'écrit là, du Grand Paris, et on atterrit au 4000. Et au 4000, bon, il y a... ça se passe avec sans prévenir personne. Donc la maire adjointe, Mme Lajoigny, court derrière le président de la République, a débarqué en hélicoptère, personne n'a été prévenu. Donc il se retrouve en plus avec des gens dans un des immeubles, et puis après... Je crois qu'on passe à la Bourse du Travail de Saint-Denis, ça passe comme ça, après, et on lui offre un dessin qu'on a fait, Cantal et moi, entre la première fois où j'ai rencontré Mitterrand, donc 15 jours,
auparavant.
20 jours avant, et pour préparer ce rendez-vous. Et ce dessin, c'est la première aquarelle du Grand Paris. Il y a toute la ligne des forts qui est dessinée. Il y a déjà le parc de la Courneuve qui est construit avec... il y a déjà... tout ce qui va être une pensée des lieux magiques dans le Grand Paris. Pas du tout une pensée technique ou une pensée urbanistique lourde, une pensée plutôt d'un travail par points qui ferait émerger des lumières dans le Grand Paris et pas simplement une sorte de Paris en grand, mais un vrai Grand Paris. Et 31 ans après, on a enfin sorti un projet...
Justement, sur le Central Park à la Courneuve. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Lucille Comeau.
Françoise Cuyten, j'ai lu que vous aviez vous-même travaillé il y a quelques années à ce projet de Grand Paris. Quelle était la nature de votre collaboration à l'époque?
À l'époque, c'est Christian Blanc, donc, qui était en charge du Grand Paris, qui est venu me voir parce qu'il me disait « Est-ce que tu pourrais essayer de donner une image aux enjeux du Grand Paris ?» Ou de faire comme un film, un récit qui nous permettrait de saisir un petit peu physiquement ce que représenterait ce projet. Parce que j'ai des difficultés. Les architectes font des rendus, mais parfois c'est difficile de communiquer sur un projet aussi vaste, aussi grand. Et donc j'étais un petit peu à l'encontre de toutes ces régions, voir comment elles fonctionnaient, voir que c'était passionnant. J'avais une vision, moi, un petit peu stéréotypée aussi sur Paris. On est toujours concentré, mais de découvrir un petit peu comment elle pourrait se développer, comment cette ville pourrait s'élargir jusqu'au Havre, quelle était l'ambition. C'était passionnant, et donc j'ai fait toute une série de dessins. Bon, hélas, il y a eu l'affaire des cigares qui a perturbé.
L'affaire des cigares, vous rappelez en deux mots?
Mais il a sauté parce qu'il avait fait un abus de cigare, je crois. Donc une histoire qui, en réalité, est un peu dommageable parce que ça a cassé, quelque part, un peu l'élan. Et c'était rare qu'une ville puisse se penser à cette échelle-là. C'était vraiment nécessaire, se penser à l'échelle d'une ville-monde.
Dans la bande dessinée, donc Revoir Paris, vous représentez un Paris devenu une vaste zone désaffectée, avec un centre reconstitué sous globe, où on aurait mis tous les monuments historiques, comme dans une salle de musée. Est-ce que c'est un avertissement ?
Oui, alors évidemment, c'est... quand on connaît Las Vegas, quand on connaît la façon dont on peut muséifier une ville, il y a le danger d'en faire des reproductions, comme Lascaux, et de faire en sorte qu'on concentre ce que le touriste a envie de voir.
Donc la Tour Eiffel à côté
de Notre-Dame,
à côté
d'Orsay, Montmartre,
voilà. Tout sous un globe.
Tout sous un globe, un immense globe, un hôtel super luxe qui arriverait comme ça en quelques kilomètres carrés, on arriverait à voir l'ensemble de ce qu'on veut voir. Ben, c'est un peu le risque, évidemment. C'est les villes qui deviennent trop bloquées par leur imagerie, par leurs clichés. Une espèce d'Amélie Poulain, une espèce perpétuelle en cycle infini. Et on oublie qu'une ville est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus contradictoire, et que c'est tous ces aspects qui en fait en même temps son charme.
Roland Castro, sur cette muséification de Paris.
Je regrette beaucoup que l'affaire des cigares, qui était d'ailleurs, il faut dire que Christian Blanc a servi de victime expiatoire à une série de malversations, la sienne étant absolument ridicule et de peu de... Vraiment, on n'a pas du tout appliqué le très joli mot de Benjamin Perret, qui vole un œuf, ne vole qu'un œuf. Voilà, point. Bon. Et il y avait une vraie...
vision.
Une vraie volonté, une vraie vision. Alors bon, sa vision était souterraine. Tous les archis du Grand Paris voulaient des métros aériens. Bon, bref. Le souterrain a gagné. Enfin, il a gagné temporairement. En tout cas, en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. Bref. Quand même, il y avait une continuité possible. C'est vrai que c'est dommage. Moi, en plus, je regrette beaucoup de ne pas avoir vu vos dessins, parce que ça doit être une vision formidablement intéressante de cette balade. Parce que je pense qu'il faut rêver le Grand Paris comme une sorte de carte du tendre. Voilà.
Faut pas 17e, alors.
Une carte du tendre. Vous savez, c'est ce truc qu'on a tous appris à l'école.
Au 17e siècle.
Au 17e siècle. Et c'est vrai que...
La colline de l'espoir, voilà, le lac du soupir.
Voilà. Moi, j'ai envie d'appeler le Central Park de l'espoir, d'ailleurs, par exemple. Ce serait le premier acte du Grand Paris. Et ça s'appellerait l'espérance. Voilà. Parce que y a deux accablements. Il y a un accablement technique sur la ville, absurde, à base de moyens de transport, de trucs, de flux, de masse et de nécessité de mettre des masses sans qu'il y ait la forme des choses. Et puis il y a un deuxième accablement, c'est l'accablement patrimonial dans notre pays. Il y a l'idée qu'on... C'est effrayant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de passion folle pour le dernier des plus vieux des derniers cailloux et absolument pas de passion pour tout ce qui peut être fabriqué. Je parlais des cités-jardins, qui sont des années 30, qui sont des lieux admirables de l'habitat social, dans lesquels on peut vérifier d'ailleurs que les gens ne partent pas. C'est une des raisons. Enfin, on peut juger de la qualité des lieux, parce que dans certains lieux HLM, les gens n'arrêtent pas de se barrer pour des tas de problèmes scolaires et d'autres. Et puis il y a des endroits où il y a un vrai bonheur d'habiter qui se perpétue depuis très longtemps. Mais on a un accablement patrimonial dans notre malheureux pays. Un accablement patrimonial. On est en train d'emmerder Anne Hidalgo pour une tour plutôt dessinée par des architectes qui ont quand même fait ce que tout le monde a vu à la télé, un nid d'oiseau très beau à Pékin, quand même. Ils ont pas les plus mauvais des architectes.
Et, le cabinet.
La tour triangle qui est dans
Edgar Meurant.
Tout ça parce qu'elle... Il n'y a même pas d'ombre portée, il y a un petit bout d'ombre portée. Dans les villes, il faut se dire des choses. C'est que quand il y a un bâtiment en face de l'autre, il fait ombre à l'autre. Oui. Sauf qu'il y a des rapports entre les choses. C'est agréable qu'il y ait de l'ombre, parce que comme ça fait de la lumière. C'est pas que c'est pas que la lumière de Le Corbusier qui était une pure catastrophe.
On en parlera tout à l'heure avec vous, Le Corbusier, parce que je sais que c'est votre dada. Lucille.
Françoise Cailleton, il y a une partie de l'exposition qui sera consacrée aux expositions universelles, celle de 1889 et puis celle de 1900. Surtout, François Hollande a annoncé il y a quelques jours que la France serait candidate à l'exposition universelle en 2025. Vous aviez vous-même participé à plusieurs expositions universelles, celle de Séville puis celle de Hanovre en 2000. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?
Oui, c'est une bonne nouvelle, mais ayant justement vécu de l'intérieur les expos universelles, j'ai même fait celle de Aichi au Japon, on voit bien qu'elles doivent se réinventer. Elles ont un problème, ces expos universelles. Les temps ont changé, on est dans un monde qui communique si facilement, si vite. La force des expos universelles, c'était de réunir en un seul lieu le monde entier. Ça n'a plus la même nécessité aujourd'hui. Ce qui est formidable dans les expos universelles qu'il y a eu en Angleterre et à Paris, il faut dire que c'est une idée française que les Anglais ont incarnée en 1850, les premiers. Mais très vite, la France réagit et fait quelques années après une très grande expo qui est impressionnante. Ça se passe d'abord uniquement entre les Anglais et les Français. Mais évidemment, ça a tout son sens à cette époque-là. Aujourd'hui, il faut faire des expos d'un nouveau genre, qui sont vraiment prospectives, qui doivent nous donner une vision de demain, qui doivent nous apporter une façon de comprendre le monde autrement, mais pas seulement de rassembler des pavillons, les uns à côté des autres, où on sent les petits cocoricots nationaux lever leur tête. Il y a là un enjeu. Mais je trouve ça une très bonne idée, par contre. Il y en avait une qui était prévue, une expo internationale qui devait avoir lieu il y a une dizaine d'années, qui a été annulée. C'est Raffarin qui l'a annulée, je crois. Eh bien, enfin, elle pourrait se faire et ça pourrait peut-être relancer, mais seulement à la condition qu'on repense un peu les principes.
Alors, comme à tous nos invités depuis le début de l'année, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Françoise Cailleton. Je m'y attendais un peu quand même. Quand on connaît votre bande dessinée, votre goût pour les locomotives, je m'attendais un petit peu à ça. Identification de ce son.
Oui, c'est une machine à vapeur. Je ne connais pas exactement la machine.
Ah, je me suis dit quand même, le technicien allait peut-être aller jusque-là, oui.
Non, je ne sais pas si c'est une Atlantique ou une Pacifique. Là, j'aurais difficile. Normalement, les techniciens, les spécialistes pourraient le dire.
C'est une machine anglaise, c'est ce qu'on m'a dit.
Ah, voilà.
Pourquoi avoir choisi ce son?
Alors, parce que je suis complètement dans le ferroviaire pour l'instant. Dans quelques mois, on va inaugurer à Bruxelles le futur musée du train, qui est un projet sur lequel je travaille depuis 8 ans. Bon, M. Castro travaille depuis 20 ans sur le Central Park de Grand Paris. Moi, c'est presque une dizaine d'années que je rêve ce projet qui sera assez original dans la façon d'imaginer un lieu consacré au ferroviaire.
C'est-à-dire, en quoi il sera original?
C'est pas du tout un musée. Ah. C'est vraiment un lieu qui est évidemment enraciné dans l'histoire, mais qui sera aussi une vision de l'avenir du ferroviaire, la façon de mettre en scène les machines qui seront là comme des stars. On y trouvera évidemment la Type 12, qui a été un sujet d'un de mes livres.
D'un de vos albums, oui.
Il sera vraiment comme un opéra ferroviaire. Je voudrais vraiment casser tous les réflexes qu'on a et donner à voir une dimension, toutes les dimensions du ferroviaire. Parce qu'en fait, le ferroviaire nous mène à des tas d'aspects, que ce soit des aspects urbains, des aspects techniques, industriels, sociaux. Et c'est un projet assez ambitieux.
La dernière question, celle qu'on adore poser à des dessinateurs, Lucille.
Oui, tout le monde a quelque chose qu'il n'aime pas dessiner. Alors, je sais que Loisel n'aime pas dessiner, par exemple, le monde moderne ou les voitures. Et Jean-Louis Trippe, lui, déteste dessiner les animaux. Et vous?
Écoutez, en fait, moi, j'aime tout dessiner, mais je dois apprendre à dessiner. Je dois tout le temps apprendre. J'ai l'impression que je dois toujours me décrasser et me remettre à regarder. Donc, je vous dirais que j'aimerais bien redécouvrir... Quand je dois dessiner par un cheval, il faut que je me mette devant un cheval parce que je ne suis pas capable de le mémoriser assez facilement. Mais par contre, le plaisir d'apprendre reste toujours très grand.
Et à votre niveau, l'architecte urbaniste que vous êtes, Roland Castro, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dessiner?
Je ne sais pas dessiner.
Bon, qu'est-ce que non, vous êtes que vous êtes un architecte qui ne savait pas dessiner?
Oui, mais je ne sais pas dessiner... Des questions les plus graves, c'est le cheval.
Ouais. Ça, très, très difficile.
Je n'ai pas dessiné le cheval. Il y a moi, je vais voir Uccello au Louvre. Regarde les culs des chevaux d'Uccello. et je ne sais pas faire ça, moi. C'est magnifique.
Bon. Moi non plus.
Plateau Urbain et Lacanien avec vous, Roland Castro, architecte, urbaniste d'un genre activiste. Vous dirigez l'un des 10 cabinets d'architectes retenus pour travailler ensemble sur le Grand Paris, on l'aura compris. On vous doit de nombreux remodelages selon le concept que vous avez mis en place, un remodelage de grands ensembles. Remodelage d'ailleurs, à partir de quel moment ce concept est apparu et qu'est-ce qu'il venait dire d'un point de vue urbanistique, Roland Castro?
Ah.
Oui, une question technique.
Bon.
Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agissait.
Alors, c'est apparu en 66, ça devait être mon diplôme. Mais les événements en ont voulu autrement, ils m'ont donné le diplôme, comme ils ont fait à plein d'architectes après 68. D'ailleurs, on ne s'occupait plus d'archi à cette époque-là. Mais enfin, j'avais déjà dans la tête qu'il fallait amener une deuxième couche sur les systèmes trop simples, des parallélépipèdes alignés.
Qui existaient déjà.
Je voulais faire le remodelage du Montmélie à Créteil, et je crois que ça va devenir d'actualité bientôt. Bon, bref. Donc l'idée de remodeler vient d'une longue enquête qu'on a fait, Antoine Grimbach et moi, en 1974, dans 10 offices d'HLM de France. On s'est aperçu avec horreur que... les bars et les tours n'étaient même pas reportés sur les plans des villes. Ils étaient absents du dessin même de la ville. On avait des dossiers, on a été dans 10 villes différentes, Longwy, Barouin, là, c'est, je sais pas, bref, peu importe, la ville dont Barouin est maire, enfin, etc. On avait dans des villes même historiques des bouts de bars qui n'existaient pas. Et il y avait des dossiers dans les offices, les 583, les 422, n'ont même pas de nom, et que des chiffres, bon. Et on a commencé à... Alors, je ne sais pas comment les idées arrivent, mais on s'est affronté à un quartier à Haussonville, c'est-à-dire dans la banlieue de Nancy, ouais. Et en travaillant un peu, on a commencé à grossir des bars et rajouter des choses pour les transformer, couper par endroits, rajouter des bâtiments neufs, retricoter un morceau de ville dans la ville. Bon. Ça, 74, pour arriver enfin qu'à partir de 89, je dessine enfin à Lorient la preuve de ce pudding. Parce que la preuve de ce pudding, il fallait le manger. Donc, ça se passe à Lorient, il y a des grandes barres parallèles, c'est la façade maritime de la ville. Le projet est sorti de toute cette réflexion qui s'était accumulée. J'en ai Jean-Yves Le Drian, qui était maire de la ville à l'époque, bateau. Hein. Ouais, j'avais une maquette. De tailler, d'ouvrir, de décréter les bars, de rajouter des morceaux de bâtiments, de refaire des bâtiments qui s'accrochaient, de refaire un quartier là où il y avait des bars parallèles. Je l'ai amené avec la maquette en bateau. Je lui ai dit, voilà la façade maritime de ta ville. Voilà ce que ça va devenir. Il m'a dit, ça marche.
Et c'était le remodelage.
Et alors bon, ce que j'aime bien dans cette histoire qui est un peu longue, à raconter... Ce qui est taillé, substitué, rajouté, remettre, en enlever, enfin, etc. C'est que quand même, il y a des preuves. Il y a eu des émeutes en 2005. Ouais. Et par rapport à tous ces boulots de remodelage qu'on a fait avec Sophie Denisoff depuis, on a dessiné 40 et fait 10 environ, il n'y a pas eu d'émeute en 2005. Donc il y a quand même eu la preuve que quand on travaille sur l'espace, on le transforme vraiment... qu'on reconnaît la dignité des gens à travers une nouvelle manière de faire, et sans casser tout pour refaire tout. Mmh. Casser tout pour refaire tout, c'est trop facile. Ouais. En retravaillant à la manière dont même, je sais pas comment dire, Haussmann a sauvé la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin en taillant ses bastos au milieu. C'est la même histoire. Donc du coup, on a des rues moyenâgeuses qui sont conservées avec un ciel qui se balade en biais, alors qu'il y en a un autre qui est bien droit. Bon, eh ben, à une autre échelle... Avec ce même système, on arrive à rester avec une histoire, on a raconté une nouvelle qui, brusquement, est extrêmement valorisante pour les gens qui habitent. Et quand ça va vraiment très bien, ça me donne même une carte postale dans la ville. Donc voilà, c'est ça le remodelage. Alors après, il faut voir. faut voir et sentir, il faut se balader, il faut voir avant et après.
Manu Farine.
Alors justement, je voudrais revenir sur une dimension qu'on connaît peut-être moins bien, Roland Castro. On recevait il y a très peu de temps ici dans l'émission le psychanalyste Gérard Miller, ancien Mao, comme vous, que vous connaissez j'imagine, et qui lui en a fini avec ses années Mao en passant à la psychanalyse, mais vraiment littéralement pour faire le deuil de son militantisme. Vous, c'est à peu près la même chose, enfin en tout cas pas le deuil du militantisme, mais disons c'est après avoir dissous Vive la Révolution que vous allez sonner chez Lacan pour une analyse qui va durer 7 ans, je crois. Est-ce que vous auriez peut-être une explication à ce cheminement-là, c'est-à-dire de Mao à la psychanalyse? Et qu'est-ce que vous attendiez de la psychanalyse à ce moment-là, qui a son importance d'ailleurs dans l'architecture, comme on va le voir?
Vous savez, quand on va en psychanalyse, conseil à personne... Il faut avoir un état, faut être dans un drôle d'état. Enfin, dans mon cas, c'était pas du tout.
Mais Gérard Miller nous parlait exactement de la même façon, comme si le militantisme, en fin de compte, l'avait mis dans un état où plus rien n'était possible.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai dû, en plus, c'est une sorte d'illumination, j'ai dissous mon organisation au moment où elle commençait à s'organiser. On a eu une énorme influence. Je me rendais compte qu'on était en train de commencer à risquer de. Changer d'échelle dans la violence urbaine moyenne. On commence à penser à... Il y avait une dérive italienne qui pouvait nous guetter. Il y avait tout ça qui traînait. Il y avait le MLF qui nous enlevait à moitié des militantes. C'est la seule raison d'être, d'ailleurs, d'une organisation. Quand même, toutes les femmes se barrent. Donc, franchement, qu'est-ce que tu vas continuer à avoir une organisation? Là-dessus, tu fermes l'organisation et tous les mecs te disent « Papa s'en va ». Et ils se mettent à te haïr. Et donc, à un moment, il faut demander à quelqu'un. Bon. Et donc, j'ai appelé à 11h du matin, il m'a reçu à 2h. Donc, c'était assez urgent. Donc, après, je trouve formidable qu'effectivement, à travers la très intéressante pensée de Lacan, assez inépuisable et assez évidente par moments, dans ce bizarre discours qui est avec des évidences déchirantes, puis des mystère à suivre. Je trouve qu'on refait sa philo, on apprend des tas de trucs, même en archi, je pense que ça m'a fait un bien fou.
Mais justement,
parce que je pense vraiment que si on fait un bon morceau de ville, c'est qu'on arrive à nouer le réel, le symbolique et l'imaginaire d'une façon réelle. Il n'y a pas de ville, s'il n'y a pas de symbolique, s'il n'y a pas de réel et s'il n'y a pas d'imaginaire. C'est pas qu'habiter une ville, c'est pas que se loger. C'est pas, il faut qu'il y ait des monuments, il faut qu'il y ait de la perte, il faut qu'il y ait des endroits inconnus. Sinon, il n'y a pas de ville. S'il n'y a pas d'imaginaire possible, s'il y a juste des bâtiments bien propres, alignés les uns côté des autres, il n'y a pas de ville. Donc, cette catégorie lacanienne du sujet, du nœud borroméen de Lacan, le réel, symbolique et imaginaire, n'importe qui est fait de ça. D'ailleurs, quand le symbolique se barre pour un sujet, dans la psychanalyse, c'est la psychose qui traîne, ça veut dire le nom du père Foulcan. Bon, la ville, c'est pareil, il faut qu'elle ait toutes ces caractéristiques-là. Et c'est vrai que la pensée de Lacan, dans ma génération, Antoine Grimbach, Christian de Panzampart, d'autres, mes copains, Jean-Pierre Buffy, tous ces gens-là, ils ont pas tous été en analyse chez Lacan, ils ont tous été au séminaire chez Lacan. Il y a quand même une époque où... tout le monde attend le premier, le deuxième et le troisième mardi du mois. Ou le premier, voilà, quand même.
Pour les séminaires de Lacan.
Voilà, quand même. Et il y a 600 femmes et 400 mecs, avec chacun un magnétophone à la main ou presque. Il y a les plus belles filles de Paris qui sont là. et y a une espèce d'attente d'une parole. Et c'est vrai que ça fait surprenant aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a encore un rapport... à la vérité, est-ce qu'il y a de la vérité dans le véritable, enfin tout ça quoi.
De Lacan, vous dites qu'il vous a sauvé, mais vous dites aussi l'analyse exclut l'artiste. Qu'est-ce qui fait que vos projets d'architecture étaient meilleurs quand Lacan était en vacances, comme vous disiez?
Ah oui, ça c'est un petit constat. Je me suis rendu compte qu'au fond, c'était plus tranquille dans la création quand il n'était pas là. Bon, c'est vrai. Et du coup, d'ailleurs, ça m'a fait une distance un peu avec la. Ça m'a permis de prendre une... Parce que c'est vrai que là, c'est très con à dire, mais le projet architectural, et encore plus le projet urbain et architectural, ça demande un esprit un peu synthétique et pas décortiqueur complètement. Ça demande une prise de risque. Et une prise de risque. Et c'est vrai que la psychanalyse, L'artiste était plus en forme quand le pied n'était pas là, c'est vrai.
Un commentaire peut-être, François Scuiten.
Mais quand il parle de réel, de symbolique et d'imaginaire, c'est évidemment aussi notre travail de raconteur d'histoire. Quand on fait des livres, on sait très bien qu'on a besoin de ce réel, on le traque. Et c'est vrai qu'on a besoin du symbolique aussi, curieusement, on a besoin. Et l'imaginaire, bon, ben, ça constitue évidemment un matériau indispensable.
On va retourner Roland Castro encore plus loin en arrière. Comme à tous nos invités cette saison, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez choisi celui-ci.
Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom ? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué, et depuis, sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise, et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort.
Identification de ce son, Roland Castro. Et pour quelle raison l'avez-vous choisi ?
C'est l'entrée des cendres de Jean Moulin en Panthéon, ouais, par Malraux. Et je ne peux pas entendre ça sans frissonner.
Oui, je vous vois assez ému.
Oui, parce que on était étudiants communistes. Alors, il y avait tous les gaullistes qui étaient sur la place du Panthéon, et nous, on ne voulait quand même pas être comptés parmi les gaullistes. Donc, on était rue Saint-Jacques. On avait le son, on était au bord, quoi. Et il y avait ce son, cette Malraux, et entre ici Jean Moulin et tout le monde en larmes. Et effectivement, c'est un moment de communion incroyable. Incroyable. Et c'est un souvenir absolument bouleversant. En plus, moi, j'ai pas honte d'admirer Malraux, qui est un grand producteur de mythes. On a besoin de producteurs de mythes. Le 4000, c'était tellement mal fait que toutes les grandes barres mettent le ciel en impasse et vous mettent dans une nasse. Vous n'avez plus de ciel.
Et on oublie qu'une ville est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus contradictoire.
Merci à nos invités. François Scuiten, c'est à la fois une bande dessinée. Revoir Paris, c'est à la fois une bande dessinée parue chez Casterman et une exposition à la Cité de l'Architecture à Paris à partir du 20 novembre. Roland Castro, on peut consulter votre actualité et donc le Central Park du Grand Paris sur votre site castro-denisoff.com. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain ?
Como cheguei aqui? O Nuno obriga-me a estar vivo. Julgo ver as palavras Nuno e amor.
Demain, il faudra attendre lundi avec le cinéaste Joaquim Pinto et le groupe Goetz. Mais ce soir, la réouverture de la Maison de la Radio, ça continue en public. À 20h, concert exceptionnel des deux orchestres Maison au Nouvel Auditorium. Et à 21h, France Culture vous invite au studio 104 avec Jacques Higelin au programme Sa lecture musicale, jeu et théorie du Duende de Federico Garcia Lorca. Extrait des balances.
Les poètes amusent, entendent des voix et ne savent pas d'où elles viennent. Mais ce sont les cris de la muse qui les encouragent. Et quelquefois, les croquent tout cru, comme ce fut le cas d'Apollinaire, grand poète détruit par l'horrible muse avec laquelle l'angélique et divin Rousseau le peignit. La muse éveille l'intelligence. Elle apporte des paysages à colonnes et la saveur illusoire des lauriers. Or, l'intelligence est bien souvent l'ennemi de la poésie, parce qu'elle limite trop, parce qu'elle élève le poète sur un trône aux arêtes aiguës et lui fait oublier que tout à coup, il peut être mangé par les fourmis ou qu'il peut lui tomber sur la tête une grande langouste d'arsenic contre laquelle les muses qui vivent dans les monocles ou dans la rose de lac tiède du petit salon ne peuvent rien.
La voix de Jacques Higelin que vous pouvez retrouver tout à l'heure au studio 104 de la Maison de la Radio en public, pour le public qui est venu donc pour cette réouverture, ce sera à 21h. Il y a des annonces, Adrien ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Lucille Como, Adrien Azeli, Aïssa Touendoy et Hippolyte Babilotte. Journal de la Culture et Supplément Week-end, Zoé Sfez et Benoît Lagan. À la prise de son, Yvan Charby, Stéphane Beaufils, Sébastien Huel et Laurent Serin. À la réalisation, Thomas Beau.
Et si on ajoutait quelque chose ? Adrien.
Si on ajoutait quelque chose, vous pouvez réécouter, vous pouvez télécharger, podcaster et commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Monsieur, je voulais remercier toute l'équipe technique qui a rendu cette émission possible ici dans le studio de l'Agora. Merci aussi au public qui est venu nous voir en chair et en os tout en présence. Il est 19h52, vous écoutez France Culture, c'est bien.